Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Cette semaine, nous avons à la barre ainsi qu'en chronique Camila Rodriguez-Sea et nous avons deux nouveaux venus également aux chroniques, Tessie Jean-Paul ainsi que Didier Pouleur. Bienvenue à tous.
Salut.
Donc, on va commencer tout de suite. En fait, nos chroniqueurs et chroniqueuses Tessie et Didier vont cette semaine se pencher sur l'industrie du taxi en s'intéressant à Uber et à Théo Taxi. Mais avant ça, Camila, tu vas nous dresser le portrait d'un sujet intimement lié au taxi, c'est-à-dire l'immigration.
Effectivement, au Canada, 50% des chauffeurs de taxi sont des immigrants. À Montréal, les chiffres iraient jusqu'à 90%. Les chiffres du gouvernement du Canada sont pas parfaits. J'aurais aimé qu'on parle de minorités racisées en plus d'immigrants et du cas spécifique de Montréal, mais bon, on connaît les chiffres pour le Québec, c'est-à-dire 90%. Puis, j'imagine très bien que les taxis sont principalement à Montréal et à Québec. Autre chiffre intéressant, 44% des chauffeurs de taxi détiennent au moins un diplôme d'études supérieures et seraient donc surqualifiés pour exercer leur métier. C'est un indicateur marquant des problèmes et de l'injustice de l'intégration au marché du travail, parce qu'il n'est pas rare que les personnes racisées mettent leur diplôme à jour pour pouvoir travailler au Québec, mais qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Rappelons qu'au Québec, un individu a 60% plus de chances de se trouver un emploi s'il a un nom à consonance canadienne-française plutôt qu'un nom africain, arabe ou hispanophone.
C'est désolant, mais tu nous parles d'une étude de la Commission des droits de la personne, c'est ça?
Oui, cette étude a été réalisée de décembre 2010 à mai 2011 et bien que je ne sois pas une experte, la méthodologie semble assez irréprochable. Deux versions ont été faites pour chaque candidature dans lesquelles on ne faisait que remplacer le patronyme, donc le nom de la personne qui envoie son CV. Toutes les personnes avaient fait des études au Québec et avaient de l'expérience de travail dans la province. Et pour en rajouter encore plus, toutes les candidatures, on parle donc de CV et de lettre de présentation, ont été revisées par des experts en ressources humaines. Là, je ne sais pas ce qu'on pourrait demander de plus.
En effet, mais Camila, la théorie que tu sembles tisser, c'est que si les chauffeurs de taxi sont en majorité des immigrants et des personnes surqualifiées en plus, c'est à cause des problèmes d'intégration, c'est ça?
Est-ce que les chauffeurs de taxi sont intégrés à la société? Probablement, je peux pas le dire, je peux pas parler, je les connais pas tous. Chose certaine, la majorité de ces immigrants-là n'est pas arrivée ici hier et a eu le temps d'enraciner sa vie et sa famille au Québec. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'un racisme conscient ou inconscient touche une partie de ces travailleurs-là. D'ailleurs, le terme d'intégration en tant que tel me dérange. Ça crée un rapport de force, je trouve, entre ceux qui appartiennent à la société et les autres. Mais la question que je me pose, c'est comment définir ces autres-là? Très souvent, ceux qu'on considère à tort comme un autre est un Québécois ou un Canadien jusqu'à la moelle, ce qui ne l'empêche pas d'entretenir plusieurs appartenances qui créent son identité dans toute sa complexité. Parfois même, et je parle d'expérience, je sais qu'Émilien, tu peux te sentir concerné aussi.
Effectivement.
On félicite un individu pourtant né à Montréal pour la qualité de son français.
Ah, ça, je l'entends tous les jours au travail.
Oui, merci, mais non merci.
Monsieur Roscanou, vous parlez très, très bien français. C'est ma langue maternelle, madame.
Exactement. Puis ça, c'est des petits exemples qui portent pas énormément préjudice, j'en conviens, mais à la longue, on se sent comme un autre, alors que c'est un nous dont la société a besoin. N'est-ce pas justement cette division, moi je dirais, entre moi et les autres qui creusent encore plus le fossé?
Oui, c'est une bonne réflexion. Merci beaucoup, Camila.
Salut, à la prochaine.
Donc, deuxième chroniqueur, Didier, tu t'es intéressé au développement de l'entreprise Taxelco.
Oui, en effet, Taxelco, qui est l'entreprise de Alexandre Taillefer, avait mis sur pied en novembre 2015 le projet Théotaxi. Et dernièrement, est devenu l'un des propriétaires les plus importants d'entreprises de taxi Montréal.
Oui. Donc
déjà la semaine passée,
oui.
Ils avaient acheté Diamond Taxi et auparavant aussi Taxi Hochelaga. Et avec en plus Théo Taxi, ça comporte 40% du marché du taxi à Montréal et ça offre un service de taxi à travers toute la ville. Et oui. Pour cette raison, c'est devenu un des plus gros joueurs dans le marché du taxi.
Oui, un joueur énorme. Mmh. Mais comment est-ce que les entreprises de taxi traditionnelles et Uber réagissent à ce mouvement de force fait par Alexandre Taillefer et Taxelco?
Eh bien, à la grande surprise, eh bien, ils réagissent bien. Et on peut se poser la question, Théo Taxi doit avoir des points négatifs, ils doivent être contre cela. Après tout, c'est un entrepreneur qui prend un peu plus de pouvoir, si on veut dire. Et pourtant, tout le monde semble s'en réjouir. Et donc, au fil des recherches, on découvre que c'est plus qu'une simple entreprise et plus qu'un simple entrepreneur qui est Alexandre Taillefer. Il y a aussi une vision sociale et environnementale à l'intérieur de son entreprise. Quand il est arrivé, c'était en plein milieu de la question sur l'industrie du taxi, justement, à savoir, oui. Est-ce qu'il fallait moderniser l'industrie du taxi, légaliser Uber? On ne le savait, on n'était pas sûr au gouvernement. Et là, Théo Taxi arrive et répond à cette question-là.
C'est un débat très, très enflammé.
Oui.
C'est ça.
Donc, de un, ils sont complètement légaux au niveau de la loi et offrent un service de qualité et ne font pas compétition avec l'industrie du taxi et en même temps apportent aussi l'apport technologique que Uber avait et que plusieurs personnes aimaient en oui. pensant.
Et toute l'expérience qui entoure l'aspect d'Uber. Hein.
Exactement. Même quand on demande aux deux parties qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur Théo Taxi, Uber répond « Ah, ben, ils ne peuvent pas nous faire compétition en termes de prix. » Mais à la base, Uber est un peu illégal dans ce fait-là, car il ne paye ni de TPS, ni de TVQ, ni d'impôts, et les permis de conduire pour les chauffeurs de Uber, eh bien, sont payés déjà d'avance. Ce ne sont pas des permis de taxi.
Sans compter le fait qu'Uber ne considère même pas les chauffeurs comme des employés. Donc, il n'y a rien qui est prélevé à la source.
En plus.
Pas de cotisation.
Donc, rien. C'est ça. Et du côté de l'industrie du taxi, eh bien, ils parlent d'un bon service. Pour Théo Taxi, les chauffeurs sont payés 15$ de l'heure, 40 heures par semaine, des horaires fixes. Ils ont droit à des assurances, à la RRQ, à 2 semaines de congés par année. C'est des bonnes conditions de travail.
C'est des bonnes conditions de travail. Mmh. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on connaissait avec l'industrie du taxi traditionnel ou avant Uber.
En effet. Mais cependant, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est l'horaire fixe. Et ça, c'est un point que certaines personnes, ça les chicote, parce que ce n'est pas un horaire flexible comme on avait l'habitude avec le taxi traditionnel, où on permettait une certaine flexibilité entre le travail et la famille.
Mais ça peut être un point positif aussi, dépendamment du style de vie que le chauffeur de taxi recherche.
En effet. Tout à fait, de ce point de vue-là. Et finalement, j'ajouterais que dernièrement, ils ont eu un contrat avec la ville pour faire les trajets aéroport-Montréal, ce qui fait en sorte que la représentation de la ville est bien vue à nouveau, parce que n'oublions pas, une personne qui arrive pour la première fois à Montréal, la première chose qu'il va voir et remarquer, c'est le transport. Il quitte l'aéroport oui. et remarque comment il va se rendre à Montréal. Bus, limousine, taxi, quelqu'un vient le chercher, il remarque ce transport-là. Et là, on lui propose un taxi écologique et différent d'Uber et différent aussi des chauffeurs de taxi. Donc, ça amène une certaine diversité.
Oui. Puis Théo Taxi, ça répond aussi à d'autres débats parce qu'on parle non seulement d'environnement, de l'électrification des transports, c'est des véhicules électriques.
Oui. Ça répondait aussi à cela, car à l'époque où ils sont arrivés, c'était encore dans les débats sur NRJS, dont les sables bitumineux qui partent de l'Alberta voulaient se rendre par pipeline jusqu'au Québec. Et là, on arrive avec un projet où on a des autos électriques qui ne demandent pas une consommation d'essence du tout. Donc, même si ce Taxelco est en train de devenir plus puissant, il reste avec sa vision sociale où il voit l'entrepreneur s'enrichir au même titre qu'il enrichit ses travailleurs et un projet environnemental propre. Donc, c'est pour cela que les taxis le voient d'un bon point de vue.
Oui, ça frappe l'imaginaire aussi. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le futur pour Taxelco?
Eh bien, pour l'instant, justement, il a une très belle image et un excellent service. Mais Alexandre Taillefer, je le vois un peu comme un politicien, un chef de parti, carrément, qui serait sur le point de devenir premier ministre pour la première fois. Il a fait plusieurs actions, son parti monte en popularité, et il a fait plusieurs promesses. Mettre fin à Uber, révolutionner l'industrie du taxi, ne veut pas d'un monopole de l'industrie du taxi montréalais, et semble et donc, on peut se dire que s'il n'est pas intéressé justement à un monopole, il semble peut-être intéressé plus à une expansion territoriale. Je sais pas, peut-être qu'il vise à amener Théo Taxi à Ottawa, à Toronto, à Vancouver ou à Québec même. On ne le sait pas encore pour l'instant, mais il est sûr que si il est capable, en tant qu'entrepreneur, de s'enrichir et de garder sa vision sociale, eh bien, il réalisera ses projets et les gens aimeront son projet. C'est là où on doit savoir, parce que là, en ce moment, il a du pouvoir. Et c'est avec cette montée en pouvoir qu'on va voir, dans le fond, s'il va garder sa vision ou si tout ça n'aurait été qu'une promesse de politicien.
Oui, que de la poudre aux yeux.
En effet.
Et puis, dans le fond, Théo Taxi, c'est vraiment cette vision-là d'Alexandre Taillefer qui met de l'avant. Lui-même, pendant le Forum social mondial, il avait dit qu'il était en accord avec le fait d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Mm-hmm. Donc, c'est cette vision-là aussi qu'il essaie d'amener. Puis, on se demande si c'est pas juste, des promesses de politiciens vides.
Ben, à date, il les respecte, comme je le dis.
C'est ça. Donc, dans son projet, ça transparaît.
Est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est juste pour garder une bonne image pendant un instant? C'est pour ça que j'invite la population à continuer à la suivre parce que c'est un projet qu'il va falloir continuer à suivre.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Didier.
Merci.
Donc maintenant, on se quitte en chanson avec Melancholy Status de Buller.
Bye.
De retour à La Faute aux médias pour cette troisième et dernière chronique, mais non la moindre, avec Tessie Jean-Paul. Donc, Tessie, la semaine dernière avait eu lieu une autre manifestation contre le service Uber. Qu'en est-il?
Oui, en fait, le 9 août dernier avait lieu la 11e manifestation contre le service Uber. Donc, le conflit dure depuis déjà plus d'un an. Donc, en fait, Uber, brièvement, vous avez déjà eu, en fait, un invité à votre émission qui parlait justement du conflit Uber contre le taxi traditionnel. C'est vraiment très simple. En fait, l'entreprise, c'est une entreprise américaine de transport qui offre un service parallèle aux chauffeurs de taxi, mais illégal, puisque... on voit pas vraiment, il ne se soumet pas aux lois sur le transport, là, régies par le Québec, en fait. Donc, aujourd'hui, les chauffeurs de taxi font pression sur le gouvernement pour légiférer, justement, le service d'UberX dans nos villes, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, je fais une espèce de... La chose que je veux faire aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, on a parlé de taxi, on a parlé d'intégration sociale. Oui. Et... d'exclusion un petit peu sociale. Donc moi, je veux faire une espèce de un amalgame de tout ça, puis de voir à quel point le fait que le gouvernement ne régit pas, en fait, le problème, à quel point ça peut avoir un impact négatif, justement, sur l'immigration. Donc, aujourd'hui, on constate que plus de 22 000 personnes travaillent dans l'industrie du taxi, donc que ce soit des chauffeurs ou propriétaires au Québec. Donc, selon un article du journal Le Devoir, publié en 2010, ça fait à peine 6 ans, mais on peut observer quand même, c'est à peu près la même chose aujourd'hui, que plus de 90 % des travailleurs du taxi sont issus de l'immigration.
C'est quand même énorme.
Exactement, c'est une très grosse proportion. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, justement, quand on observe le conflit. Donc, moi, je suis tombée, en fait, par hasard, sur, en fait, un mémoire. C'est le mémoire de l'Association des travailleurs de taxi, de l'Association haïtienne des travailleurs de taxi, en fait, qui est l'AHTT, qui est fondée en 1982 par des chauffeurs d'origine haïtienne afin de faire respecter leurs droits civiques au travail, puisqu'ils étaient victimes de discrimination raciale et d'inégalité face à leurs collègues dans la répartition des appels. Donc, ça, c'est vraiment la raison pourquoi il a été créé en 1982. Aujourd'hui, c'est tout autre parce que l'AHTT dépose un mémoire sur les pratiques du transport rémunéré à l'occasion de la commission parlementaire sur le transport qui a eu lieu, en fait, à la mi du mois de juin. Donc, c'est vraiment ce mémoire-là tend à protéger vraiment l'ensemble des travailleurs du taxi. Donc, le mémoire présente les nouveaux coûts de la vie, donc aussi les tarifs qui augmentent très peu dans l'industrie, et la nouvelle réalité à laquelle des milliers de chauffeurs doivent composer, justement, avec l'arrivée d'Uber dans l'industrie, en fait. Qu'est-ce qui est très important quand même à calculer dans la vie que les chauffeurs vivent aujourd'hui, là, justement, dans la difficulté de pouvoir avoir un bon salaire puis pouvoir s'intégrer à la société, mais non seulement nourrir leurs enfants et autres. Là.
Oui, parce que c'est pas un milieu qui est extrêmement facile, là, le milieu du taxi.
Ouais.
Donc, quand en plus, il y a une grosse entreprise multinationale milliardaire qui débarque, qui fait de la concurrence déloyale.
Exactement, c'est ça.
Qui casse les prix.
puis qui amène un modèle qui est vraiment qui respecte aucune règle du jeu, mais ça fait très mal là, pour ces gens-là.
Effectivement, c'est ça. D'autant plus que le gouvernement est tard à légiférer. Donc moi, ma réflexion face à ça, c'est aussi un appel à notre gouvernement qu'il fasse quelque chose, parce que selon ma réflexion, c'est en ne légiférant pas le service d'Uber, le gouvernement participe à l'exclusion sociale de milliers d'immigrants. Si on compte plus de 22 000 personnes qui travaillent dans l'industrie
du taxi. C'est près de 20 000 personnes issues de l'immigration.
Exactement. Donc, c'est des gens que le gouvernement ne protège pas contre des menaces étrangères et contre des compagnies étrangères. Donc, c'est important vraiment d'aujourd'hui de surtout dans une... Tu sais, on est beaucoup dans... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration, on parle beaucoup... Il y a beaucoup de vagues d'immigration, puis aujourd'hui, tout le monde... C'est le premier mot. « Ah, il faut que ça s'intègre, ça ne me dérange pas aussitôt qu'il s'intègre. » Mais à un certain moment donné, il faut aussi que le gouvernement fait sa part, justement, en protégeant les travailleurs. Surtout que aujourd'hui, on constate que le permis de conduire, c'est justement qu'est-ce que je disais dans le mémoire de l'Association haïtienne du taxi, en fait, que le permis qu'ils ont payé entre 175 000 et 200 000, ça sera probablement leur seul fonds de retraite. Donc, c'est important de penser à ça parce que, dans peut-être, si on tarde à légiférer, il y a des milliers de travailleurs qui vont se retrouver sans fonds de retraite. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, je pense que c'est vraiment important d'y penser et d'aller beaucoup plus loin, de savoir est-ce que ma course va me coûter 10 ou 20 $? C'est pas ça le vrai débat. Pour moi, c'est pas pertinent déjà de parler c'est moins cher ou pas moins cher. C'est l'avenir du Québec. Puis surtout dans une ambiance où on est dans une province très nationaliste. Donc le Québec espère un jour son indépendance, mais c'est le temps de défendre justement les terrains de nos travailleurs québécois dans de telles situations. Donc moi, je fais un appel à tous, vraiment. Aujourd'hui, c'est le temps d'être nationaliste face à notre conflit.
La question à ce moment-là qu'on peut se poser, c'est qui est québécois et selon qui? Parce que demande à plusieurs personnes, puis dépendamment de la couleur de ta peau, ça va déterminer est-ce que tu es un Québécois ou pas, dépendamment, peu importe vraiment depuis combien de temps tu habites ici ou à quel point est-ce que tu es Québécois dans les faits, mais tu vas être un immigrant comme Émilien et moi qui pourtant sommes nés au Québec.
Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais je pense que ça part vraiment du fait, je pense que ça se joue dans notre cœur à nous d'être Québécois déjà. On peut pas juger quelqu'un de sa pourcentage d'être Québécois ou pas. Puis, tu sais, j'ai eu des discussions avec des Québécois qu'on pourrait dire entre guillemets « pur laine » et qu'ils étaient pour Uber. Donc, à un certain moment donné, c'est une réflexion qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin de savoir... Tu sais, qui sont les vrais ou pas les vrais Québécois? Les vrais Québécois, c'est les gens qui défendent vraiment... Le nationalisme québécois, et que tu sois bleu, orange, noir, mauve, c'est pas ça qui importe. Selon moi, vraiment, la chose qui importe, c'est vraiment le fait que le Québec te tient à cœur. Ça peut être 20 ans, 3 ans, t'es au Québec. Je pense que dès que tu mets de l'avant le discours nationaliste et que t'essaies le plus possible de consommer des produits québécois, mais à ce moment-là, je pense réellement que t'as à cœur le Québec.
Donc, t'es Québécois. Oui. Absolument.
Oui, c'est sûr. Se serrer les coudes, c'est important.
Ouais.
Puis c'est sûr qu'à l'arrivée d'Uber, tout le monde a été séduit. Là, c'était facile, c'était beau, c'était le fun. Mais là, c'est ça, il faut vraiment changer la mentalité.
Exactement.
Montrer que, bon, l'alternative existe. J'imagine que tu vois d'un bon œil l'arrivée de Théo Taxi, là, qui est quand même joueur tout aussi séduisant qu'Uber.
Exactement,
là,
c'est ça.
Donc, ça permet de renouveler l'image du taxi.
Exactement,
qui a été terni à tort ou à raison par toutes sortes d'histoires, que ce soit des faits divers ou des problèmes plus systémiques dans l'industrie. Donc, c'est un cri du cœur que tu nous lances aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça. Parce que souvent, on pense que nouveauté est souvent synonyme de progrès, mais pas nécessairement. Donc, des fois, il faut penser un petit peu plus loin que... OK, c'est la nouveauté, c'est vraiment intéressant, mais est-ce que la nouveauté va-t-elle nous permettre d'aller plus loin en tant que société globale? Peut-être pas. Donc, le but, c'est d'être non seulement l'aspect nouveauté doit nous permettre d'avancer, mais doit aussi nous permettre de voir un petit peu plus loin que « Ah, c'est le fun, ça me coûte moitié moins prix, tu sais. »
C'est ça. Puis c'est un débat non seulement moral, mais c'est un débat aussi social, parce que non seulement Uber fait une concurrence déloyale à de nombreux travailleurs, mais c'est aussi ça vise aussi beaucoup des communautés issues de l'immigration.
Exactement.
Donc c'est très important de s'y opposer haut et fort.
Ouais, exactement.
C'est là qu'intervient le racisme systémique, parce que c'est pas dans l'intention mais plutôt dans les effets reconnaît le racisme ou le sexisme, par exemple.
Oui, parce qu'Uber, ils arrivent, ils débarquent dans une ville, ils se disent pas bon ben on va aller à l'encontre des communautés issues de l'immigration.
Non, mais leur existence
les faits,
touche
ça qui arrive.
Et d'ailleurs, je reprends la balle au bon pour rappeler à tous nos auditeurs d'aller signer la pétition pour une commission sur le racisme systémique au Québec. D'ailleurs, ça me fait penser, l'aile jeunesse du Parti libéral veut qu'il y ait une commission sur le racisme systémique. Pourquoi c'est surprenant? C'est le fun, mais c'est surprenant parce que la commission sur le racisme systémique a été appuyée par de nombreux, je veux dire, la pétition a été appuyée par de nombreux groupes comme Montréal Nord République, Inclusion Québec, Québec solidaire, Projet Montréal, pas tout à fait dans la même sphère idéologique que le Parti libéral du Québec ou sa jeunesse à tout le moins.
Non, c'est ça, mais je pense que Philippe Couillard avait un peu rejeté du revers de la main là, l'idée de commission en soi.
Exact, il a dit, attendez, les mots exacts, c'est qu'il va se pencher sérieusement sur la question du racisme systémique sans promettre en tant que tel une commission. Il n'a pas fait de promesse.
Donc,
il a dit que
sur le fond, il semblerait être d'accord. Sur la forme, ça reste à voir.
Exactement. C'est Philippe Couillard, là. Je veux dire, la question du racisme systémique sous-entend la présence d'une société. C'est tout ce que je dirais par rapport à ça. Donc, Philippe Couillard, le Parti libéral et la société, ça fait deux, à mon sens, parce que la société présuppose la présence de plusieurs individus qui vivent ensemble et dont le destin est lié, pas seulement à une série d'individus qui doivent travailler très fort pour leur succès personnel.
Donc, quand même des oppositions philosophiques sur la façon dont on voit notre société.
Oui, mais tu sais, c'est la philosophie et ces idéologies-là qui, en bout de compte, façonnent le monde. Donc,
je suis tout à fait d'accord avec toi.
Donc, ça a l'air compliqué un petit peu de loin quand on parle de ça, là, néolibéralisme, puis ces mots savants-là, mais dans le fond, ça a tout l'impact. C'est ça qui décide s'il y a des garderies à 7 $ de l'heure ou si on doit payer chacun de notre poche.
Donc, pour résumer, Uber, néolibéralisme, le diable. Théo Taxi, libéralisme économique, mais mieux qu'Uber.
Exactement. Et les paris sont lancés à quand la candidature d'Alexandre Taillefer pour la mairie de Montréal? Moi, je la vois venir.
Avant la fin de l'année, ça, c'est sûr.
Clairement.
Bon, bien, sur ces pronostics, je vais remercier nos collaborateurs. C'était tout le temps qu'on avait. Donc, merci beaucoup, Tessie Jean-Paul, pour ta chronique.
Ça fait plaisir.
Donc, encore une fois, je remercie Didier Poulard ainsi que Camilla Rodriguez-Ca.
Merci à vous.
Merci
un
beaucoup.
Un plaisir renouvelé.
C'était Émilien Roscanou à l'animation. Vous écoutez La Photomédia. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Et pour terminer, vous écoutez Lionhead de Brave Radar. In the